Si vous-même, vous avez déjà pris le chemin de destruction et peut-être même écopé certains résultats dans votre vie, la grâce de Dieu est là, le pardon de Dieu est là. Et donc, c'est quelque chose d'extraordinaire que nous avons un si grand Dieu, n'est-ce pas? Et donc, voilà. Donc, maintenant, nous allons justement garder des choses importantes. Comment maintenant retrouver nos balises? Comment nous fortifier pour le combat? Donc, voilà le défi qui est là devant nous. Puis, on va regarder maintenant l'exemple de Joseph. On a vu l'exemple négatif de Mme Potiphar. Maintenant, on va voir l'exemple qui nous inspire, l'exemple de Joseph. Et nous avons ce verset clé où on retrouve un peu le résumé de son cœur. On voit ici, c'est comme si la parole de Dieu ouvre une fenêtre pour qu'on voit de quel bois Joseph se chauffait là. Donc, on voit ça dans ces versets, verset 8. Mais il refusa et dit à la femme de son maître, « Mon maître ne me demande compte de rien dans la maison et m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a plus d'autorité que moi ici et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte si mauvais et pécherais-je contre l'Éternel? » Jour après jour, elle revenait à la charge, mais Joseph ne voulait pas l'écouter. En refusant de coucher à côté d'elle et d'être avec elle. Donc, on voit que Joseph avait toute une stratégie de défense qui découlait de quelque chose de plus profond dans sa vie. Donc, ma prière maintenant pour nous, c'est que nous puissions tous poser cette base solide pour notre vie. Donc, on va prier, demander à Dieu de nous guider. Seigneur, merci de ta fidélité envers nous. Merci de ta présence avec nous. Merci pour ta grâce aussi. Merci pour cet exemple, cette histoire qui a tant de choses à nous enseigner. Donc, Seigneur, aide-nous à poser cette fondation solide pour notre vie. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Donc, on voit les trois niveaux de protection dans la vie de Joseph. Donc, ça prend tous les trois là. La première, c'est son engagement vertical envers Dieu. Donc, il le dit bien dans le passage, « Comment pécherais-je contre Dieu? » Donc, on voit que son point de repère ultime était Dieu. Dans toute cette histoire, dans toute cette tentation-là, il avait son point de repère vertical. Sa relation avec Dieu était une constante dans sa vie. Et c'est là où il pigeait tant de ressources pour le combat dans lequel il se trouvait. Donc, c'est quelque chose de très important pour nous. Et on va sûrement revenir là-dessus aussi. Comment avoir une relation si profonde avec Dieu que nous vivions finalement sous son regard. Parce que voilà ce qui est important. Donc, le deuxième engagement qu'on voit, c'était son engagement personnel envers lui-même et envers son appel. Donc, puis il a dit, comment commettrais-je un acte si mauvais? Donc, il voyait ça comme, il voyait son agence, là. Il était pas juste victime de ses désirs, là. Il était acteur dans cette histoire-là, tu sais. Il ne pourrait pas dire, mais voilà, elle m'a séduit, j'étais en dehors de moi-même, finalement, je n'ai pas pu résister, là. Il a dit, si je fais ça, je commets un péché contre l'Éternel. Donc, il voyait vraiment sa responsabilité là-dedans, là. Il ne pouvait pas justifier son acte, hein, ou mettre la responsabilité sur le dos de n'importe qui d'autre. Il était acteur dans cette histoire. Donc, il voyait sa responsabilité. Donc, on va, on va revenir. Et sa responsabilité envers lui-même, envers son appel. Et on va regarder davantage aussi que cet appel dans la vie de Joseph, puis on va regarder ça surtout demain matin aussi. Il savait qu'il avait quelque chose d'important pour lui devant Dieu. Et qu'il ne pouvait pas, disons, abandonner cet appel-là pour entendre l'appel de Madame Potiphar, là. Il avait un autre appel qui résonnait plus profondément dans son cœur, qu'il écoutait, là, qui faisait en sorte qu'il ne pouvait pas écouter ou qu'il ne pouvait pas donner place à l'appel de Madame Potiphar. Et le troisième niveau de protection, c'était justement son engagement horizontal envers son patron et envers ses responsabilités. Donc ça, c'est vraiment intéressant quand on voit dans le passage ici. « Mon maître ne me demande compte de rien dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a plus d'autorité que moi et ce qu'il m'a, il m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. » Donc, pour Joseph, il voyait aussi sa vie à l'horizontale. Il voyait ses responsabilités envers son patron. Moi, j'ai un ami, par exemple, qu'est-ce qu'il fait sur son écran d'ordinateur? Il a son épouse, une photo de son épouse à la droite, à la gauche, et puis une photo de ses enfants à la droite. Puis il dit, « Je ne veux rien mettre entre mes enfants et mon épouse, là. Je ne veux rien mettre aucune image, là, sur mon écran, là, qui va faire du tort à mon épouse et à mes enfants. » C'est bon, hein? Parce qu'il voit ses responsabilités horizontales envers sa famille, envers son épouse, envers ses enfants. Et je pense qu'on met beaucoup d'accent sur la responsabilité verticale envers Dieu, là. Mais Dieu est invisible. Mais nos responsabilités là, envers notre famille, envers les êtres chers dans notre vie, aussi nous inspirent à marcher dans la pureté devant Dieu. Donc, je vais vous parler ce matin d'une idée intéressante. Et ça m'a été présenté par un auteur qui s'appelle... David Brooks, là, il en parle dans son livre. Et donc, la prochaine diapo, là, c'est, il parle d'une écologie morale. Donc, je vous donne, je pense que vous avez ça même sur votre feuille. Joseph possédait ce qu'on peut appeler une écologie morale. Il avait établi une règle pour sa vie, pour son travail, pour ses relations, qui lui fournissait une éthique, une ligne de conduite. Quand on parle d'écologie morale, on fait référence justement à un ensemble d'engagements et de comportements qui nous permet de naviguer nos décisions importantes. Donc voilà quelque chose d'important, et là on va parler des choses pratiques, là. Comment développer cette écologie morale dans notre vie à nous? Ce qui nous permettrait justement d'avoir une bonne ligne de conduite, de bonnes balises dans notre bateau, là. Donc, un ensemble d'engagements et de comportements qui nous permettent de naviguer nos décisions importantes. Et des fois, des décisions cruciales, là. Et on a besoin de cette écologie morale pour cela. Donc, c'est quoi une écologie morale? Ce n'est pas juste une série de règles qui soient imposées, là. Je me souviens, moi, je suis allé à l'école biblique quand j'avais 18 ans. C'était dans l'Ouest canadien, avec le Bible Belt, là, la ceinture de la Bible. Les écoles bibliques étaient partout, là. Dans les 70, là, tout le monde, tout chrétien qui, dans les églises évangéliques, allait dans l'école biblique pendant au moins un an. C'était la culture, c'était la chose qu'on faisait à l'époque. Donc, en arrivant à l'école biblique, on se retrouvait dans un contexte très réglementé. Et justement, il nous imposait certaines règles, surtout sur les fréquentations, sur les heures de se lier. Et c'était comme un peu enfantin, il faut avouer quand même. On avait quand même 18 ans, là, voyons donc. Là. Mais ce qu'il voulait faire, il voulait imposer sur nous une écologie morale, mais tu ne peux pas imposer une écologie, n'est-ce pas? Ça ne marche pas là. Parce que nous, là, ce qu'on voulait, quand on voyait les règles, c'est quoi la première chose qu'un jeune de 18 ans veut faire là? Il veut trouver une façon de détourner les règles. Puis nous, là, c'était comme un sport un peu pour nous, là. Comment on va trouver du temps avec notre ami eux sans qu'ils nous voient, tu sais? Donc ils voulaient nous imposer ça, mais finalement, ça ne marchait pas du tout parce que nous, là, on ne voulait pas l'avoir, tu sais? Donc, une écologie morale, ce n'est pas une série de règles qui sont imposées de l'extérieur. C'est quelque chose que nous embrassons à partir de l'intérieur. Donc, c'est pour ça que l'idée d'écologie est intéressante parce qu'on voit qu'il y a tout un ensemble d'éléments organiques qui font en sorte que tu peux créer une écologie morale. Et ce n'est pas juste une chose, c'est plusieurs choses qui combinent pour créer une écologie ou même un écosystème. Donc, je pense qu'autrefois, et peut-être vous venez peut-être d'une certaine culture, certains de vous ne sont pas nés au Québec, là, mais ce qui est arrivé au Québec, un peu, on peut comprendre un peu ce qui est arrivé, parce que l'Église catholique et les règles avec lesquelles les baby-boomers vivaient, là, étaient très étouffants. Donc, pour les femmes, par exemple, il fallait que les femmes aient un certain nombre d'enfants. Dans le contexte catholique, était très réglementé. Le prêtre était comme au centre du village. Et les Québécois avaient très peu de marge, finalement, pour sortir de leur système. Et même, ça dictait beaucoup sur le plan économique aussi, sur le plan de relations. Et si vous lisez, par exemple, ce que j'ai déjà fait, la littérature québécoise des années 40 et 50, là, les Québécois, là, ils étaient en train de se rébeller contre ces structures-là. Là. Et, parce que c'est une structure qui avait été imposée de l'extérieur, que les Québécois ne voulaient pas avoir. Puis avec la Révolution tranquille, ce qui est arrivé, tout est sauté, là. Littéralement, là, sauté, là. Et les structures et les règles imposées par l'Église ont été rejetées. Et les Québécois, là, dans l'histoire du Québec, là, il est entré dans le temps moderne là, à la planche. Puis les mœurs sexuelles, par exemple, vous savez, le plus faible nombre de mariages au Canada est au Québec. Là. Parce que les Québécois, en rejetant l'Église, ont rejeté aussi le mariage, qui est une institution de l'Église, tu vois. Et donc, on voit que l'Église catholique essayait d'imposer une structure qui n'a pas marché. Et vous savez, vous venez de certains contextes, différents contextes culturels, vous autres aussi, et beaucoup de contextes africains que je connais imposent aussi une certaine structure sur vous, là, tu sais. Il y a des attentes familiales, il y a des attentes au niveau de qui tu vas marier, ce que tu vas faire avec ton temps, avec ton travail, etc. Et vous n'avez pas beaucoup de marge dans votre vie. Et les attentes de la famille sont assez lourdes sur vous. Là. Pour vous, les femmes, par exemple, les attentes au niveau du mariage, au niveau d'avoir des enfants, fonder une famille, etc. Dans le contexte africain, ces attentes-là sont très, très élevées. Est-ce que je me trompe, là? Et donc, mais c'est ces attentes qui viennent de l'extérieur. Mais ce n'est pas une écologie morale. Une écologie morale, c'est quelque chose que tu développes toi-même, avec un ensemble de facteurs importants dans ta vie. Donc, on va regarder davantage à cela. Donc, une écologie morale est un écosystème où différents éléments se complémentent et créent le contexte pour une vie et des relations épanouies. Joseph portait cette écologie partout où il passait. Et le virus de corruption, cet espace invasif venant de la part de Mme Potiphar et d'autres sources ne pouvaient pas le pénétrer. C'est l'image d'espace invasif qui m'est venue là, quand je regardais mes notes là, pour ce matin. Et vous savez que des fois, tu vas voir des espèces qui viennent de l'extérieur, de notre écosystème, n'est-ce pas? Puis ils arrivent dans l'écosystème au Québec, puis ils prennent toute la place. Tu sais, ils vont, parce qu'ils vont, ils vont déranger l'écosystème qui est déjà balancé, équilibré. Et tu as un espèce invasif qui arrive là. Et là, tout l'écosystème est tourmenté, bouleversé par cela. Et je dis, waouh, il y a tout un exemple ici qu'il faut développer notre écosystème afin de résister aux espèces invasives que le monde veut mettre sur nous, là. À plus forte raison, il faut que notre écosystème soit ferme, soit solide, afin de résister justement à ces espèces invasives qui nous menacent. Et justement, la pornographie, la vision de la sexualité que les gens vont promouvoir dans notre société, c'est comme une espèce invasive qui risque de tout chambarder notre système chrétien, là. Si on donne place à ça. Donc, c'est quoi une écologie morale? On va parler de... Et on va essayer de creuser dans chacun de ces points-là. Et premièrement, nos engagements vers Dieu. Puis on va développer chacun de ces points. Donc, la verticale est importante. Nos engagements envers nous-mêmes. Donc, on va parler justement de nos valeurs, de notre sens d'appel et tout ça. On va regarder les différents éléments. Nos engagements envers le travail, la production et les biens matériels. Donc, on va sortir un peu aussi de notre combat avec la tentation, puis on va regarder plus loin aussi, parce que l'écologie concerne toute notre vie. Pas juste le combat avec la tentation, mais ça concerne toute notre vie. Et nos engagements envers notre communauté et même nos engagements envers notre environnement. Donc, c'est quelque chose peut-être qu'on voit de nos jours, peut-être qui n'a pas été à l'horizon quand moi j'avais votre âge. Donc, développer une écologie morale. Donc, premièrement, nos engagements envers Dieu. Un ensemble d'engagements. Comment, premièrement, alimenter l'écoute de Dieu dans ma vie? C'est important, là. Moi, je dirais, la place de la parole de Dieu, oui. Vraiment, de devenir un homme qui est plongé dans la parole de Dieu. Mais aussi, moi, je dirais, et ce que je découvre avec le temps, la place de la solitude, la place de la nature, la place de l'adoration, mais trouver un rythme pour ta vie spirituelle. Moi, je dirais, ce qui est spécial avec Joseph, c'est qu'on voit qu'il avait toujours sa relation avec Dieu, puis il fallait qu'il cultive sa relation-là un peu en tout seul, là, parce qu'il n'était pas entouré d'autres chrétiens ou d'autres adorateurs de Dieu, là, n'est-ce pas? Il fallait qu'il cultive sa relation avec Dieu, mais presque tout seul, là. C'est extraordinaire un peu de sa part. Mais il faut alimenter notre écoute de Dieu dans notre vie. Il faut aussi s'assurer que je cultive un amour grandissant pour Dieu, pour moi-même et pour mon prochain. Et je souligne les trois points, là, parce que vous savez que le plus grand commandement, n'est-ce pas? Tu vas aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, les trois focus de l'amour, là, c'est l'amour envers Dieu, l'amour envers soi-même et l'amour envers l'autre. Donc, comment tu vas dans ta vie cultiver cet amour-là, non seulement pour Dieu, mais aussi pour que tu aies un amour sain pour toi-même, mais un amour et un respect aussi pour les autres. Et moi, je dirais une chose avec Joseph qu'on voit, il savait que s'il commettait ce geste-là, ce n'est pas juste lui-même qui serait blessé, mais Madame Potiphar aussi le serait. Et son mariage aussi le serait. Donc, l'amour pour son prochain qui était dans ce cas ici, Madame Potiphar, aussi animait cette décision-là. Même si c'est un amour qui voyait plus loin que le désir qui animait cette femme. Donc, comment cultiver cet amour-là pour moi-même et pour mon prochain? Comment continuer de grandir dans ma foi tout au long de ma vie? Sur certaines, là, quand tu... En vieillissant, là, vous savez que des fois, on pense que oh, une fois que j'ai 60 ans, là, ma relation avec Dieu serait sans pépins, tout va bien aller, Dieu serait tout près de moi en tout temps. Mais maintenant que je suis jeune, là, il me semble que Dieu est lointain, c'est difficile. Mais vous savez que, je peux vous dire une chose, puis pas pour vous décourager là, mais notre relation avec Dieu n'est jamais facile. Et la tentation ne disparaît pas avec les années là. C'est pour vous décourager, là, ce matin. Donc, il faut travailler pour cultiver notre relation avec Dieu. Il faut grandir dans la foi. ne faut pas rester au stade d'enfant, là. Parce que plus nous grandissons, plus Dieu va nous donner de responsabilités, plus j'aurai besoin de maturité pour porter ces responsabilités-là. Et donc, comment avoir un plan de croissance spirituelle dans ma vie qui va faire de moi un homme ou une femme mature? Quand tu as des enfants, quand tu dois porter des responsabilités spirituelles à l'Église, quand tu vas porter des responsabilités pour les autres. Et si tu n'as pas ce fondement solide spirituel de maturité, vous n'aurez pas de la capacité pour cela. Comment enrichir ma vie avec Dieu, avec la sagesse de la grande famille chrétienne? Et là, vous avez peut-être une certaine connaissance de la parole de Dieu. Vous avez des amis chrétiens autour de vous qui vous encouragent. Mais si vous n'avez pas un plan de lecture qui élargit vos horizons, qui vous expose à la sagesse de la famille de Dieu, vous allez vous priver de grandes richesses. Et vous serez limité dans votre capacité de viser la maturité. Et je vous dis ça sérieusement, hein, ce n'est pas juste toi et la parole de Dieu, là, et tes rencontres à l'église qui vont faire de toi un chrétien mature, là. Il faut que tu piges dans... Il faut que tu développes ta façon de penser, ta façon de réfléchir. Il faut développer ta réflexion théologique, là, sur la vie, sur les enjeux de la société, sur les défis auxquels tu fais face. Il faut avoir une maturité de réflexion. Et pour faire ça, il faut aussi piger dans les grandes ressources que Dieu nous donne dans la vie, dans notre famille chrétienne. Et trouver des auteurs qui vous inspirent, trouver des poètes qui vous inspirent, mémoriser des poèmes, trouver vraiment des auteurs qui vont vous aider à entrer dans la présence de Dieu par leurs écrits. Restez pas là avec Hillsong, là. J'aime Hillsong, là, ça va. Mais vous n'allez pas devenir des adorateurs matures si vous buvez uniquement Hillsong, là. Il faut avoir quelque chose de plus grand dans la riche tradition aussi chrétienne. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui peut alimenter notre marche avec Dieu, notre intimité avec Dieu? Donc, comment enrichir ma vie avec la sagesse de la grande famille chrétienne? Donc, vous êtes avec moi? Ça va? Donc, nos engagements vers Dieu, nos engagements envers soi-même. Donc, quel est l'appel que j'ai reçu de la part de Dieu? Quels sont les trésors qu'il a mis dans mes mains que je dois échanger pour lui? Échanger dans le sens de faire affaire avec ce qu'il m'a donné là. Parce que vous connaissez l'histoire de ceux qui ont reçu des talents de la part du maître, n'est-ce pas? Il y en a celui qui a reçu 5 talents, 2 talents, puis 1 talent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ceux qui ont reçu les 5 talents et les 2 talents? Ils ont échangé les talents. Ils ont investi ces talents-là pour le maître. Puis ils ont fructifié leurs talents. Et moi, je vois ça comme étant, les talents, ce n'est pas juste mes dons spirituels, là, mais c'est tout ce que Dieu m'a donné dans ma vie, là. Mes expériences, mes capacités, mon intelligence, mon passeport canadien. Tout ça, c'est des richesses, hein? Des fois, on rit un peu, mais avoir un passeport canadien, c'est quand même une bonne chose, hein? Quand vous voyagez dans le monde, là. Mais qu'est-ce que j'ai reçu de la part de Dieu, là? Même mes expériences de vie, les bonnes et les moins bonnes, la souffrance que j'ai vécue, les bénédictions que j'ai connues, tout ça, c'est ce que Dieu a mis entre mes mains. Mais qu'est-ce que je fais avec ça, là? Qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu a mis dans mes mains? Je peux l'enterrer. Si j'enterre ce que j'ai reçu de la part de Dieu, là, c'est par crainte, parce qu'on voit un peu un des serviteurs, je sais qu'il était un homme dur, là, puis donc il n'avait pas sa confiance dans le maître. Il n'avait pas confiance en lui-même aussi de bien investir la chose. Donc, il était animé par la paresse aussi, animé par la crainte, animé par le doute. Et qu'est-ce qu'il a fait avec tout ça? Il a enterré ce qu'il avait reçu là, de la part de Dieu dans la terre. Et finalement, qu'est-ce qui est arrivé quand le maître revient? Il dit quelque chose de fascinant. Il dit, prends même ce qu'il a et donne-le là, à celui qui en a 5. Là. Mais j'ai dit, c'est une parole qui est dure, hein? Et mais j'écoutais un auteur l'autre jour là, qui a dit ceci. Il dit, mais ce n'est pas que le maître a été méchant. Il est en train de parler de ce qui arrive dans la vie. Si tu veux garder ta vie, si tu enterres ce qui t'a été donné, là, tu vas le perdre. Pas parce que Dieu est méchant, là, mais parce que c'est une loi de la vie. Si Dieu t'a donné quelque chose de riche et d'extraordinaire et tu vas enterrer ça, là, tu vas finir par la perdre. Et même il parlait de sa propre mère dans l'auteur. Il disait que sa mère avait vécu des expériences très blessantes, très difficiles. Puis au lieu d'expérimenter la guérison puis prendre le chemin de la restauration, elle a enterré sa souffrance. Puis elle est devenue une femme de plus en plus réduite. Plus elle vieillissait, plus elle était réduite. Parce qu'elle a enterré ce qu'elle avait reçu. Et moi, c'est quelque chose, ça m'a beaucoup interpellé, là. J'ai dit, mais oui, qu'est-ce que j'ai reçu de la part de Dieu? De bonnes et de moins bonnes choses, là. Mais comment je peux investir ce que j'ai reçu pour lui et pour moi? Parce que tu vois que celui qui a reçu 5, il est entré quoi? Dans la joie de son maître. Il est entré dans la plénitude de son projet de vie, là. À cause qu'il avait échangé justement ce qu'il avait reçu de la part de son maître. OK, mais ça c'est... Quelles sont les 5 valeurs cardinales qui servent de pierre de fondation pour ma vie? Puis je vous pose la question, c'est une question très pratique, là, très importante. Et pourquoi 5, là? Parce que c'est une question de limiter, parce que si on prend toutes les valeurs, finalement, on ne prend aucune valeur, n'est-ce pas? Si on veut que tout me décrit, je suis quoi? Je suis tout, puis je suis rien en même temps. Donc, qu'est-ce que Dieu a mis dans mon cœur comme valeur? Mais je sais, par exemple, pour moi, et ça vient un peu de mon expérience d'enfance, puis je pense que Joseph aussi en avait ça, moi, c'était vraiment la compassion pour les autres. Ça, c'est quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur, jeune. Je voyais du harcèlement à l'école, quand j'étais jeune, et je me souviens des expériences, et j'étais tellement touché de compassion par les gens qui étaient harcelés, là. Et je sais, qu'est-ce que Dieu a mis dans mon cœur? Il a mis dans mon cœur un compassion pour les gens. Même mon appel pastoral, là. Je pense qu'il est né là. Quand je voyais mes amis, là, j'avais un de mes amis, là, qui était battu par un des bullies, là, à l'école, là. Je me souviens, son bras était noir, là, parce qu'il avait été battu, là. Et moi, je voulais prendre position pour lui, là, tu sais. J'avais ce sentiment de justice dans mon cœur là, pour les faibles, les marginalisés. Là. Et c'est ce qui a marqué ma vie. Donc, quand vous pensez à votre propre expérience, puis on va parler davantage demain matin, là, qu'est-ce que Dieu a semé dans ton cœur à travers tes expériences de vie? Et quelles sont les valeurs, les trésors que vous avez maintenant entre vos mains, là, que Dieu a mis à travers votre expérience de vie? Là. Et essayez d'identifier 5, là. Et moi, je dirais aussi, une autre valeur essentielle pour moi, c'est la liberté, là. Parce que moi, j'ai grandi dans un contexte un peu légaliste, là. Puis je voyais les hommes légalistes qui étouffaient les gens, là. Puis j'ai ressenti le camisole de force dans lequel ils voulaient me mettre aussi, là. Et j'ai dit, la foi chrétienne n'est pas un camisole de force. C'est la liberté. En Jésus-Christ, amen. C'est la liberté. Et je sais que pour moi, voyant les effets néfastes du légalisme, ça a mis en moi une soif de la liberté. Là. Donc, ça, c'est un exemple de deux de mes valeurs à moi. Essayez de penser, quand vous faites un bilan de votre vie, de vos expériences, quelles sont vos valeurs essentielles? Là? Et moi, je dirais que quand vous regardez l'exemple de Joseph, là, moi, je pense que avec ce qu'il a vécu avec sa sœur, quand sa sœur a été violée, par cet homme-là. Et quand ses frères ont réagi avec violence, avec vengeance, je pense que Joseph a dit, « Moi, là, la vengeance n'aura aucune place dans ma vie. N'aura aucune place dans ma vie. » Et l'impureté sexuelle, là, n'aura aucune place dans ma vie à cause de ses expériences d'enfance. Donc, Joseph a... C'est sûr que je lis un peu dans l'histoire, mais Mais à travers les expériences de vie, je pense que Joseph a décelé les choses, les engagements envers lui-même. Très important, là. Quels engagements? Troisième, me permettre de bien gérer mes besoins physiques et sexuels. Ça, c'est très important, là. Moi, je dirais, une chose qui manquait de ma vie à moi, à cause de mes expériences, comme je vous parlais, là, on trouvait la boîte de magazine, là, puis la fille, disons, qui n'avait pas de respect pour elle-même, là, dans notre voisinage. C'est comme si j'avais perdu mes balises, là, sur le plan sexuel, là. Puis quand j'ai commencé mes fréquentations sérieuses, j'étais au dépourvu, là. Je savais qu'il ne fallait pas que je couche avec elle, mais c'est tout ce que je savais, là. Mais c'est pas une balise, ça, là. C'est pas une direction, là. C'est comme une règle de l'extérieur, c'est pas quelque chose qui vient de l'intérieur, au niveau du respect, au niveau de... Comment je vois la sexualité comme le lieu très saint, n'est-ce pas, de la personne. Mais quels engagements me permettent de bien gérer mes besoins physiques et sexuels? Donc, la discipline au niveau de mon corps, au niveau de mes désirs, au niveau de temps que je passe à l'ordinateur. Donc, toutes ces disciplines-là sont importantes pour gérer ma vie, mes besoins physiques et sexuels. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je fais pour prendre soin du cheval? Et non seulement de mon âme, le chevalier, là. Et vous savez que dans le monde, là, les gens sont tellement préoccupés par le cheval, là, qu'ils oublient le cavalier, là. Donc, tu vas aller au gymnase, tu sais, la forme physique est tellement importante. Et les gens dans le monde, là, c'est comme leur dieu un peu, là, le corps humain, là. Mais nous, c'est un peu l'inverse, là. Pour les chrétiens, c'est plus le cavalier, là. On oublie le cheval. Mais le cheval est important, là. Qui va porter le cavalier si le cheval est foutu, là? Et moi, j'ai 60 ans maintenant, là. Et ceux qui étudient le développement humain, ils disent que entre 60 ans et 80 ans, ça devrait être tes années les plus productives de ta vie. Si tu es en bonne santé. Quelque chose, hein? Mais si vous ne s'aimez pas pour la santé dans la trentaine et la quarantaine et la cinquantaine, vous n'aurez pas la santé dans la soixantaine, n'est-ce pas? Les engagements que vous faites maintenant, là, vont vous permettre d'avoir vos années fructueuses, là, dans les 60 et 70, là. Et moi, je prends ça très au sérieux. J'ai une histoire de famille aussi. Mon père a eu une crise cardiaque à 70 ans, problème de cholestérol. Donc, maintenant, là, j'ai 60 ans, là, c'est sérieux, mon affaire, là. Est-ce que je veux continuer à porter du fruit, là? Il faut prendre soin du cheval, là. Il faut prendre soin du cheval. Donc, commencez maintenant, avec le cheval aussi. Donc, nos engagements envers nous-mêmes, très important. Ça fait partie de notre écologie morale. Donc, prochain, nos engagements envers le travail, la production et les biens matériels, là. Ça, c'est quelque chose aussi, là. On regarde les choses pratiques, hein. C'est pas juste les choses ésotériques qu'on regarde, là, ce matin, là. Mais, quelle est mon attitude envers l'autorité? Ça, c'est quelque chose d'important. Et on voit que Joseph avait quelque chose de très fort planté dans son cœur par rapport à l'autorité, n'est-ce pas? Il dit, mon patron, il m'a dit ceci, là, il m'a confié cela. Et moi, il m'a légué cette responsabilité-là, et je la prends, la responsabilité. Et je la prends au sérieux, là. Mais quelle est mon attitude envers l'autorité? Donc, quand les responsabilités me sont confiées, qu'est-ce que je fais avec eux? Est-ce que je suis un homme fidèle, une femme fidèle? Et comment développer davantage ma fidélité envers les gens qui sont au-dessus de moi? Vous savez que dans la famille chrétienne, là, c'est pas évident, hein? Les pasteurs qui sont dans les églises, là, trouver des hommes et femmes fidèles, là, qui vont porter les responsabilités, là, c'est pas évident, là. Mais seriez-vous des hommes et femmes fidèles? Quand vous recevez des responsabilités. C'est très important. Comment je vais gérer mon temps? Comment je vais pratiquer la simplicité tout en profitant de ce monde d'abondance? Ça, c'est important aussi. Parce que l'endettement, aussi est un fléau hein, dans la société. L'endettement, c'est un gros problème, là. On alimente justement la consommation. Acheter aujourd'hui, payer demain. Vous savez, quand vous recevez votre carte de crédit, là, si vous faites le paiement minimum, là, lisez là, en arrière, parce qu'ils sont obligés maintenant par la loi de vous dire, là, si vous faites le paiement minimum, ça va vous prendre 30 ans pour payer la facture, là, puis vous allez payer peut-être 10 000 $ de plus. Ça fait peur, là, tu sais. Parce que il va vous dire le paiement minimum, là. Parce que là, tu payes 20 % d'intérêt, là. Donc, ils veulent que tu fasses le paiement minimum parce que là, ils vont... Mais c'est quoi ces choses-là? Mais c'est de l'endettement et c'est tellement facile aujourd'hui de s'endetter. Mais comment gérer les biens matériels? Parce que qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, là où est ton argent, là aussi sera ton cœur. Des fois, on dit, là où est ton trésor, puis on spiritualise le passage, là. Mais Jésus parle de l'argent, là, dans ce passage-là. Là où est ton argent, là aussi sera ton cœur. Donc, ce qu'on fait avec nos biens, ce qu'on fait avec l'endettement, c'est très, très important, là. Et ça fait partie de notre écologie morale. Comment je vais m'assurer que les biens matériels n'étouffent pas ma générosité, là? C'est une autre question, parce que les biens matériels, leur tendance, c'est un peu comme la convoitise, là. Si tu poursuis uniquement les biens matériels, l'amour de l'argent, cet amour-là va étouffer ta vie spirituelle. Jésus en parle longuement, là. Combien il est difficile à l'homme riche d'entrer dans le royaume des cieux, là. Qu'est-ce qui est arrivé, ce jeune homme-là? Il trouvait son identité dans ses biens matériels. Et il ne pouvait pas imaginer la générosité, là, donner à ceux qui sont dans le besoin, Jésus lui dit. Jésus appelle à la générosité extravagante, hein, puis il ne pouvait pas. Donc, comment cultiver la générosité? Puis, dites pas, quand j'ai de l'argent, là, quand j'ai un emploi stable, là, je serai généreux, là. C'est faux, hein? La générosité commence quand tu as peu. Ça commence pas quand tu as beaucoup, là. Parce que si tu n'es pas généreux avec peu, tu ne seras pas généreux avec beaucoup. Donc, une question importante, qu'est-ce que je fais pour cultiver la générosité dans ma vie, là? Des fois, une discipline de donner, là, régulièrement, là. Et de donner aussi à des gens dans le besoin, là. Je sais que vous venez de... Plusieurs viennent de l'Afrique et tout ça. Vous savez c'est quoi, un peu? Vous portez vos familles, là, à distance, là. Je sais comment ça fonctionne souvent, là. Dans vos contextes, vous êtes conscients de cela. Mais cultiver la générosité, là, c'est important. Comment je gère mon personnel? Donc, l'autre mot, là, qu'est-ce que je fais avec l'autorité qui m'est confiée? Comment je vais exercer mon autorité que je reçois? Comment les gens qui travaillent en dessous de moi, comment je vais les valoriser? Comment je vais les équiper, ces gens-là? Les gens qui rapportent à moi, là, comment ils vivent leur relation avec moi, là? Donc, tout ça fait partie de mon écologie, mon engagement vers le travail, la production et les biens matériels. Ça compte, hein? Ça compte. Prochain. Mes engagements vers notre communauté et famille, là. Quels paramètres vont façonner mes relations amoureuses, là? Ça, c'est important, là. Et de tout simplement dire, là, que je n'aurai pas de relations sexuelles avant le mariage et tout ça, là, ces affaires-là, là, c'est pas une écologie morale, ça, là. Mais comment je vois ma fiancée? Comment je me comporte dans mes relations amoureuses? Quels paramètres pouvons-nous établir ensemble pour bâtir notre amour ensemble? C'est des questions très importantes. Comment m'assurer de respecter la dignité et valeur de ceux qui sont avec moi? Comment vivre le pardon et garder un cœur tendre envers ceux qui m'offensent? Waouh! C'est gros, là! Parce que dans vos relations humaines, vous savez, et même dans vos relations chrétiennes, vous allez vivre des conflits, hein? Vous savez ça? Et faut pas enterrer les conflits. C'est comme un feu dans le cave, là, dans le sous-bassement, là, de la maison, là. Si tu fermes la porte, là, ça règle pas le problème, hein? Mais les conflits, là, ça existe. Dans les églises aussi, moi, une chose que je fais dans mon ministère, moi, je travaille avec l'église qui vivent des conflits, là. Mais des fois, c'est profond. C'est des ruptures profondes. C'est des déchirures profondes que vivent les gens, là. Même dans les contextes d'église. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Comment vivre le pardon et garder un cœur tendre envers ceux qui m'offensent? Puis beaucoup de chrétiens n'ont pas appris à faire ça. Et beaucoup découlent de notre arrière-plan familial. Et c'est là où Joseph a nagé contre le courant de sa famille, n'est-ce pas? Parce qu'on voit que sa famille était vraiment rongée par l'amertume, là, et par la vengeance, là. Mais Joseph a choisi un autre chemin, là. Mais pensez à votre famille, à votre contexte familial. Là, comment votre famille a géré le conflit, là? Est-ce que c'était de l'amertume? Moi, j'ai eu la joie, là, je vais parler de ça un peu demain, là. Mon père à moi, même s'il n'était pas chrétien à l'époque, c'est un homme qui voyait toujours le bien dans l'autre. Peut-être, je ne sais pas, dans quelle sorte de maison tu as grandi, là, mais certaines maisons, là, c'est toujours la critique de tout le monde, tu sais. C'est... Joël, tu veux? Oh, le temps, OK. Donc comment justement naviguer les relations humaines? Et si c'est de l'amertume qui a dominé ton contexte familial, il faut faire attention que tu brises cette péché générationnel pour aller justement vers le pardon et tout ça, c'est important. Comment équilibrer l'équilibre sain entre, je pense que oui, c'est ça, sain entre la solitude et la vie ensemble? Ça, c'est important dans vos relations humaines. Il faut avoir du temps pour toi-même, il faut avoir du temps avec Dieu, puis il faut avoir du temps en communauté. Et là, un livre excellent pour ça, c'est vraiment le livre de Dietrich Bonhoeffer. Peut-être vous le connaissez, de la vie communautaire. Donc, c'est le meilleur livre sur les relations humaines dans le contexte chrétien qui a jamais été écrit, là. Dietrich Bonhoeffer, de la vie communautaire. Donc, lui-même, il savait qu'il devait créer un contexte communautaire fort pour résister au fléau justement des nazis qui justement étouffaient son pays, là. Puis Bonhoeffer a dit, il faut créer autre chose, là, plus fort que cette fausse communauté nazie, là, qui existait dans son temps. Donc, comment créer un réseau d'amis de confiance? On est là encore. D'amis de confiance. Et moi, je vous dis, c'est peut-être la chose, peut-être la petite ligne en bas, mais c'est peut-être la chose la plus importante pour vous, là, dans votre, disons, écologie relationnelle, là. Parce que c'est sûr, c'est bon de faire partie d'une église, là, d'une famille chrétienne, mais c'est vraiment vos relations avec vos proches, là, quelques amis de proches, là, qui vous connaissent bien, qui savent ce qui se passe dans vos cœurs, qui peuvent vraiment vous protéger là, des pièges. Là. On dit même, ceux qui combattent avec la pornographie, une des meilleures protections, c'est justement ces amis de confiance. Et vous priez les uns pour les autres, vous tenez des comptes les uns des autres. Là. Vous envoyez vos historiques d'ordinateur les uns aux autres. Là. Ça, c'est quelque chose. Hein? Mais ça devient une protection. Là. Quand j'ai quelqu'un qui veille sur moi, ce n'est pas juste le regard de Dieu, là, qui est invisible, mais c'est le regard de mes frères ou de mes sœurs. C'est quelque chose de profond, là. Donc, comment créer un réseau d'amis de confiance? C'est très, très important, surtout pour le combat avec la pornographie. Donc, on avance. Puis le dernier, c'est justement nos engagements envers l'environnement. Disons, on a entendu beaucoup parler de l'empreinte carbone. Comment respecter ma responsabilité environnementale dans le choix de logement, d'auto, de voyage, etc. C'est des questions qui sont de grande importance pour la société dans laquelle on vit. Puis dans nos milieux chrétiens, malheureusement, on n'a pas suffisamment valorisé cette dimension de notre écologie-là, de nos engagements. Et souvent, c'est un mauvais témoignage aussi pour la société dans laquelle nous vivons. Mais, en fait, on termine avec cet exemple de Joseph. Mais refusa, il dit à la femme de son maître, « Mon maître ne me demande compte de rien dans la maison Il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a plus d'autorité que moi. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte aussi mauvais et pécherais-je contre Dieu? Donc, moi je crois que, puis c'est pour ça que je vous ai parlé de cette écologie morale, là. D'où venait cette force dans la vie de Joseph là? Il avait établi quelque chose de solide dans sa vie. Là. C'est sûr que ce qui est exceptionnel avec lui, c'est qu'il n'avait pas autour de lui une communauté, là, pour des amis là, pour l'encourager. Il fallait conjuguer avec tout ça sur le plan personnel. C'est quelque chose d'extraordinaire avec lui. Là. Il avait une force de caractère qui lui a donné la capacité de développer son écologie tout seul. Mais nous ne sommes pas aussi forts que lui. Il faut le dire. Hein. On a besoin des autres. Et moi, je vous encourage avec ces amis, ces trois ou quatre amis proches, là, de prendre ce que je vous donne aujourd'hui et de dire, mais qu'est-ce que moi, je peux faire? Comment pouvons-nous développer une écologie morale ensemble? Notre relation avec Dieu, nos relations les uns avec les autres. Comment poser ces fondements solides dans ma vie à moi? Parce que c'est ces fondations solides-là qui vont vous permettre de résister à toutes ces espèces invasives qui vont menacer votre vie. Amen. Amen.